Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, rappelez-vous, c'était le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima était endommagée à la suite d'un violent séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami et d'une vague de plus de 10 mètres. Conséquence directe, plus de 28 000 morts et disparus, et la centrale de Fukushima Daiichi qui ne résistera pas au déferlement de la vague. Aujourd'hui, plus de 3 mois après l'accident nucléaire de Fukushima, cette nouvelle émission Regards croisés vous propose, en compagnie de nos deux invités, de faire une première analyse des événements qui ont suivi le tsunami. Le Japon était-il préparé en cas de réel coup dur? Le constructeur TEPCO a-t-il une large responsabilité dans les défaillances techniques? Y a-t-il eu des défaillances humaines? Et pourquoi cette impression de confusion au sein du gouvernement nippon dans la prise en charge et la communication autour de cette catastrophe classée désormais au niveau 7, échelle internationale des événements nucléaires, le plus fort niveau, au même titre que celui de Tchernobyl? Nous parlerons bien sûr de l'avenir, à court et moyen terme, pour la population vivant sur place, de la contamination des sols et de l'océan. Robert Guillaumont, Gilbert Ruel, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Robert Guillaumont, vous êtes professeur honoraire à l'Université Paris Sud 11. Vous êtes radiochimiste. Vous avez notamment travaillé sur les problèmes liés à la chimie dans le nucléaire et la gestion des déchets radioactifs. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et membre fondateur de l'Académie des technologies. Et puis, précisons qu'à l'Académie des sciences, un comité Solidarité Japon a été créé et auquel vous appartenez. Vous appartenez plus exactement au sous-groupe nucléaire et il existe 2 autres sous-groupes pour information, le groupe sismique et médical. Gilbert Ruel, on vous voit régulièrement au studio de Canal Académie, vous êtes membre fondateur également de l'Académie des technologies comme votre confrère Robert Guillaumont. Vous avez présidé pendant 8 ans au sein de cette académie la commission énergie et changement climatique. Ingénieur, vous avez effectué votre carrière chez Alstom. Je vous propose pour commencer de faire un rapide rappel sur les différents événements qui se sont déroulés juste après le tsunami et nous pourrons ensuite, si vous le voulez bien, entendre votre analyse. Lorsque le séisme survient, les capteurs sismiques arrêtent automatiquement les 3 réacteurs en service dans la centrale de Fukushima Daiichi et les générateurs prennent le relais pour refroidir les cœurs nucléaires. Jusque-là, tout va à peu près correctement. Mais la vague de 10 mètres submerge les générateurs qui tombent en panne et cette fois-ci, les cœurs nucléaires s'échauffent, réagissent chimiquement et produisent de l'hydrogène. Et pour éviter la surpression, les ingénieurs décident sur place de dégager cette vapeur radioactive dans l'atmosphère qui, au contact de l'air, c'est-à-dire de l'oxygène, provoque des explosions que l'on a pu voir en image sur donc ces 3 réacteurs. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là, on constate une fuite d'eau hautement radioactive, on fait tout pour la colmater, et puis les piscines contenant du combustible usé commencent elles aussi à s'échauffer, l'eau se met même à bouillir, et dans l'urgence, c'est aussi les images que vous avez peut-être en tête, hélicoptères et lances à incendie sont utilisés pour essayer d'injecter de l'eau dans ces piscines et dans les réacteurs. Aujourd'hui, plus de 3 mois après l'accident, est-ce qu'on observe toujours la fusion partielle des 3 réacteurs? Première question pour commencer, qui s'adresse à tous les deux, Gilbert Ruel et Robert Guillaumont.
Alors effectivement, les 3 cœurs des réacteurs 1, 2, 3 sont rentrés en fusion, du moins partielle. Et ensuite, le corium qui s'est formé, qui est une espèce de magma de zirconium, d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'uranium et divers autres composants métalliques s'est formé, puis a probablement coulé au fond des cuves, et ensuite les déversements d'eau l'ont refroidi, et je pense qu'aujourd'hui le corium est solidifié, et n'est plus donc en fusion, et il continue donc d'être refroidi. Et la fusion s'est stoppée parce qu'on a refroidi. Et il faut continuer à refroidir, évidemment, pour que la chaleur qu'il émet encore puisse être évacuée.
Ça peut prendre encore combien de temps, Gilbert Ruel?
On parle de 6 à 9 mois, quelque chose comme ça.
Oui, donc c'est un temps très long encore.
Oui, bien sûr. Dans une centrale nucléaire, on peut faire peut-être un petit retour en arrière. Vous avez omis de dire le tremblement de terre a eu une action immédiate sur la centrale, c'est de faire déclencher les groupes. Mais les lignes électriques d'évacuation d'énergie sont tombées par le tremblement de terre. De sorte que, entre le tremblement de terre et l'arrivée du tsunami une heure après, il n'y avait plus de possibilité d'alimentation électrique des pompes de refroidissement. Par le réseau, j'entends. Puisqu'il n'y avait plus de réseau. Et le tsunami qui est arrivé une heure après a submergé le mur anti-tsunami qui ne faisait que 6,5 mètres, alors que la vague faisait, on a dit 14 mètres peut-être. Et là, le tsunami a noyé tous les autres moyens de refroidissement. Les diesels de secours qui avaient correctement démarré et fait leur travail, ils avaient commencé à alimenter les pompes de refroidissement, mais tout a été noyé. Donc la centrale s'est retrouvée dans le noir absolu, plus aucun moyen de refroidissement. Alors les barres de contrôle de la réaction sont tombées, de sorte que la réaction nucléaire a été immédiatement stoppée. Mais dans une centrale nucléaire, en gros 93% de la chaleur vient de la réaction nucléaire elle-même, des neutrons, et 7% vient des produits de fission, qui, lorsque les barres tombent, on supprime les 93%, mais on ne supprime pas les 7%. Et les 7%, c'est la chaleur produite par les produits de fission qui va s'éteindre lentement en fonction, la durée de vie de ces produits de fission est plus courte que celle des radionucléides au-delà de 200 de masse atomique, mais ça tombe en plusieurs semaines, donc il faut continuer à refroidir longtemps.
Comme le dit Gilbert Ruel, la radioactivité et la chaleur dégagée diminuent assez rapidement, mais actuellement elle est quand même stabilisée, puis elle se stabilise après et ne diminue que tous les 30 ans de moitié, ce qui est quand même une période qui est très longue, et elle est quand même par réacteur à propre, probablement au-delà d'un mégawatt. Ce qui fait que pour refroidir une telle masse dégageant cette puissance, il faut plusieurs mètres cubes d'eau par heure.
Merci pour ce rappel. Justement, la transition est toute trouvée. Vous l'avez justement rappelé, toutes ces étapes qui ont mené à cet accident. On a l'impression, si vous me permettez cette expression, d'une série de bricolages. On sort les lances à eau pour refroidir les piscines à distance, après avoir longuement hésité à prendre une décision, ça fait un peu désordre. De même que la décision de faire des explosions pour diminuer la pression, on a l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de plan de prévu en cas d'arrêt des systèmes de refroidissement. Gilbert Ruel.
Il n'a pas été décidé de faire des explosions, c'est faux. Il a été décidé d'évacuer l'hydrogène, ce qui est différent. L'impression de confusion, je crois qu'il ne faut quand même pas attaquer KEPCO outrancièrement, parce que KEPCO a pris de bonnes décisions, me semble-t-il. Très vite, en quelques heures après l'arrivée du tsunami, le cœur s'est trouvé dénoyé sur l'unité numéro 1, et on a très vite atteint des températures de fusion du zirconium. Le zirconium attaqué par la vapeur donne de l'oxyde de zirconium et dégage de l'hydrogène. On s'est trouvé en présence de forts dégagements d'hydrogène et d'un échauffement qu'on ne pouvait pas maîtriser puisqu'il n'y avait plus aucun moyen de refroidissement. Alors, il a été fait appel aux pompiers. On a injecté de l'eau dans le cœur. D'abord de l'eau douce, mais les réserves d'eau douce étaient quand même limitées. Et la première grosse décision qui a été litigieuse, c'est faut-il utiliser l'eau de mer ? Alors là, la direction de la centrale en a référé au premier ministre japonais. Et le premier ministre, bien embarrassé, n'a pas répondu dans les temps. Et c'est le superintendant de la centrale qui a pris la décision, malgré la non-réponse du premier ministre, d'injecter de l'eau de mer. L'injection de l'eau de mer a eu quand même le mérite, c'est probablement ce superintendant qui a évité le pire, parce que elle a eu le mérite de disperser le corium en fusion et de le solidifier quand même un peu plus vite. Donc, j'hésiterais à critiquer TEPCO.
Disons qu'en fait, c'est la théorie du moins pire. Il fallait prendre une décision.
Mais oui, mais bien sûr. Je ne sais pas ce qu'aurait fait une autre compagnie et un autre gouvernement dans telles circonstances.
Oui, ce que je peux rajouter, c'est que bon, tous les exploitants nucléaires, en cas d'accident, doivent se référer à un plan qu'on appelle le plan d'urgence interne, qui a pour but de ramener la centrale à son état de marche normale. On connaît la situation par manque de courant d'alimentation électrique, et puis également il y avait une perte de prise d'eau pour le refroidir, de la prise d'eau en mer. Bon, maintenant, quant aux explosions, en fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'on le laisse entendre. La montée en pression s'est faite dans l'enceinte de confinement et il se trouve que dans les réacteurs à eau bouillante, cette enceinte peut être mis en communication avec une piscine, qui est une grande réserve d'eau. Et lorsque, pour éviter que la pression dans l'enceinte de confinement soit supérieure au dimensionnement de cette enceinte, on la fait passer dans la piscine à travers l'eau, ce qui a déjà pour premier effet de piéger de la radioactivité, mais également de condenser l'eau vapeur. Et en condensant l'eau, je veux dire du mélange, eh bien ça l'enrichit un petit peu aussi en hydrogène, parce que lui, il ne se condense pas. Et ensuite, de cette piscine, on peut relâcher dans le bâtiment. Et c'est au moment du relâchement dans le bâtiment qu'ont eu lieu les explosions d'hydrogène.
C'est peut-être tout de même l'instant de signaler qu'il n'y avait pas de recombinateur d'hydrogène. Dans tout,
préciser peut-être,
dans
oui.
Les réacteurs PWR, les réacteurs français notamment, il y a des recombinateurs d'hydrogène qui empêchent que l'hydrogène puisse être en contact avec l'oxygène, je crois.
Il y a peut-être un doute quand même, je pense qu'il devait y avoir des recombineurs d'hydrogène, mais c'était un système à ignition, c'est-à-dire que pour qu'il fonctionne, il fallait de l'électricité. Comme il n'y avait pas d'électricité, ils n'ont peut-être pas fonctionné. Mais on n'est pas bien sûr, enfin personnellement, je ne suis pas bien sûr qu'il n'y en ait pas eu quand même dans les bâtiments réacteurs.
Si vous le voulez bien, on va poursuivre. Avant de revenir peut-être sur la société TEPCO, on a quand même l'impression que le Japon cherche à régler tout seul les conséquences de cette catastrophe. Je parle de catastrophe, mais Claude Allègre dit qu'il ne faut pas utiliser le mot catastrophe, mais accident nucléaire plutôt que catastrophe nucléaire, ça c'est une aparté. Le Japon n'a pas demandé l'aide au G8 à Deauville en mai 2011 et est même resté dans le club des pays riches et dans le printemps arabe et l'Afrique démocratique. Est-ce le déni de la catastrophe ou la volonté de s'en sortir seul? Comment l'interprétez-vous, Robert Guillaume?
Enfin, je l'interprète, je pense que c'est pas un déni de la catastrophe. De toute façon, une catastrophe comme celle-ci, elle peut pas être dissimulée. C'est évident que, de toute façon, tout le monde le saura.
Et cette volonté vraiment de régler son problème.
Mais la volonté de s'en sortir seul, je pense que ça tient vraiment à la culture japonaise de pouvoir régler ses affaires sans faire appel, du moins immédiatement, à la communauté internationale.
Je ne crois pas qu'on puisse en faire un reproche. La France a immédiatement proposé d'envoyer des robots pour aider à l'inspection, la décontamination, etc. Mais dans un premier temps, le Japon a refusé, ça nous a paru un peu bizarre, mais en fait, les robots proposés par CEA ne pouvaient pas opérer dans l'enceinte du BWR qui est très étroite. Puisque ensuite, quand il s'est agi d'aller voir dans les piscines, le Japon a accepté ces robots. C'était un problème technique, mais on ne peut pas accuser le Japon d'avoir refusé la collaboration.
Si vous voulez bien, passons à un autre terme important qui est celui de la décontamination. Aujourd'hui, on sait que la centrale nucléaire de Fukushima ne sera probablement jamais remise en service et sera ou serait donc démantelée. Pour cela, il va falloir la décontaminer. Alors initialement, les dates de décontamination avaient été fixées en juin 2011. Aujourd'hui, on parle de janvier 2012, car on a découvert une radioactivité bien plus élevée que prévu qui a fait stopper net les opérations. Vous parliez justement de toutes ces eaux qui pouvaient être stockées dans ces centrales. Actuellement, on pense qu'il y a 100 000 mètres cubes d'eau radioactive qui seraient encore contenues dans l'enceinte et qu'il va falloir évacuer. Comment on évacue cette eau contaminée? On la met où et comment la décontamine-t-on? Robert Guillaume.
Il n'est pas question de décontaminer. Attention, il est question actuellement de fixer la contamination, ce qui est complètement différent.
D'accord.
Pour éviter qu'on en rejette à l'atmosphère. Donc pour l'instant, on projette des plastifiants sur toutes les surfaces qui fixent la radioactivité. La décontamination et le démantèlement d'une centrale, c'est une opération qui demande des années, des années. Donc je crois que TEPCO n'en est pas encore à envisager vraiment la décontamination des réacteurs et des bâtiments et leur démantèlement.
Quand on parle de la date de janvier 2012, ça correspond à quoi alors?
La date de janvier 2012, c'est de reprendre la maîtrise des réacteurs afin qu'il n'y ait plus d'émissions de radioactivité à l'extérieur. C'est ça, je pense que c'est plutôt un confinement de radioactivité, mais ce n'est pas une décontamination.
Gilbert Ruel.
Il y a un plan de déconstruction, parce que je crois que c'est un meilleur terme que démantèlement, de la centrale. Aujourd'hui, ce que les Japonais appellent retour au gazon, en 10 ans, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais enfin c'est un plan qui est à l'évaluation. Et 10 ans paraît peut-être un peu juste.
Oui, enfin de l'expérience qu'on a,
oui,
en tous
oui.
Les cas, ça paraît très...
Un peu court.
On a rapidement parlé de TEPCO, je vous propose d'en reparler un tout petit peu avant de marquer une pause. Effectivement, vous disiez, Gilbert Ruel, de ne pas faire un procès d'intention à la société TEPCO. Juste quelques mots sur cette société qui est donc le plus grand producteur privé mondial d'électricité, grande firme japonaise. Et donc, TEPCO, au tout début de cet accident, avait été montré du doigt. On disait qu'il faisait du nucléaire au rabais, proposant des centrales moins chères que celles des Américains et des Français, avec du personnel moyennement qualifié pour leurs tâches. Et des défaillances humaines, en plus des défaillances techniques, auraient pu être également suggérées à la suite de cet accident. Est-ce, selon vous, un mauvais procès d'intention ou est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ça ?
Je considère que c'est un mauvais procès d'intention. On peut certes dire que TEPCO est une compagnie qui n'a certainement pas la culture de sûreté d'EDF. C'est une compagnie qui a acheté des réacteurs aux États-Unis, le G1 qui a créé le plus d'ennuis, il a 40 ans de service, il ne faut pas oublier, ce sont les autres ont 37 ans, ce sont des réacteurs en fin de vie, si l'on peut dire, en tout cas en fin de vie économique, ils sont largement amortis. Et TEPCO, je crois qu'ils n'ont pas fait comme EDF qui, à chaque incident, introduit les modifications, les améliorations de sécurité, ce qui fait qu'on peut dire que les réacteurs français, plus ils sont vieux, meilleurs ils sont. C'est un peu comme le bon vin, parce qu'ils bénéficient d'améliorations. Bon, certes, il y a certaines parties qui vieillissent, certains métaux de certaines parties. Mais je crois que TEPCO n'a pas suivi cette voie et n'a, bon, ils n'ont pas autant de culture de sûreté qu'EDF. Ceci dit, de là à les critiquer outrancièrement, je m'y refuse.
Robert Guillemont, donc vous partagez l'avis de Gilbert Ruel.
Moi, je rejoins un peu ce que dit Gilbert Ruel. De toute façon, le modèle, c'est un modèle américain. Bon, il faut bien voir quand même que quand on fait tourner un réacteur nucléaire, la sûreté du réacteur est constamment quand même mise à jour et que TEPCO, par rapport au modèle qui a été construit, a certainement fait quelques modifications, améliorations, jusqu'au jour, évidemment, de l'accident. Mais je partage aussi le point de vue de Ruel, je crois que TEPCO a une notion quand même de la sûreté, enfin, qui n'est pas celle, dans tous les cas, qu'on aurait dans d'autres pays, je pense, en France et aux États-Unis.
En disant ça, vous voulez aussi rassurer le public français.
TEPCO a été pris un peu la main dans le sac dans certaines affaires qui n'étaient pas quand même très, très claires.
Alors, on marque une pause, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. On va laisser TEPCO de côté et on va s'intéresser à la population et à la contamination des sols. À tout de suite.
« 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin ». C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Regard croisé en compagnie de Robert Guillemont et Gilbert Ruel, dans cette deuxième partie d'émission, intéressons-nous à la population. Quelques 70 000 Japonais sont exposés aujourd'hui, suite à l'accident de Fukushima, à des doses de radioactivité inquiétantes et une partie de la nourriture, thé et produits de la mer ne sont plus consommables. Pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le 23 juin 2011, l'accident nucléaire, précisons-le, n'a fait aucun mort. Mais au vu des retombées radioactives et de la population qui petit à petit revient s'installer dans ces zones initialement évacuées, quels seraient ou seront les risques pour la santé ? Robert Guillemont, peut-être pour commencer.
Je pense que les personnes qui reviennent dans les zones qui ont été contaminées et qui doivent être mieux caractérisées qu'elles n'étaient juste après l'accident peuvent y revenir. J'ai un doute quant au laxisme des autorités médicales pour laisser revenir des gens dans des endroits où les doses qu'ils seraient vraiment au-delà de ce que la réglementation suppose.
En même temps, pour les gens qui ont des terres, qui cultivent à côté de la centrale, mais peut-être que c'est à 20 km de la centrale, j'imagine qu'au bout d'un moment, on veut revenir aussi sur son lieu de travail pour pouvoir reprendre son activité.
Oui, certainement qu'ils ont peut-être envie d'y revenir, mais je ne connais pas la situation locale.
Gilbert Ruel ?
Bien, l'IRSN a dressé une carte des retombées radioactives sur les 450 km² qui ont été touchés. On sait qu'il y a un panache orienté nord-ouest, où il y a des zones un peu plus touchées, mais sur la plus grande partie de ce cercle, la radioactivité actuelle est tombée en dessous de 30 millisieverts. Et ça, c'est tout à fait supportable par les gens. Il faut savoir qu'au Kerala, les gens vivent avec 90 millisieverts, dans une partie de l'Iran également, et un peu dans certaines parties du Brésil. Donc, on tombe là sur le problème, sur l'écart de plusieurs ordres de grandeur entre les normes de radioprotection qui sont très très basses et le seuil à partir duquel il apparaît des phénomènes pathologiques. On n'a jamais vu aucun phénomène pathologique en dessous de 100 millisieverts. Les travailleurs du nucléaire, normalement, sont autorisés à recevoir 20 millisieverts par an. Chacun de nous reçoit 2,4 à peu près millisieverts. Dans le Massif central ou en Bretagne, ça peut atteindre 10. Et beaucoup de zones dans le monde sont entre 50 et 100.
Mais alors, puisque vous parlez de ce sujet-là, justement, pour la population, on estime qu'à partir d'une exposition supérieure à 10 millisieverts, il est souhaitable d'évacuer les populations, c'est ce qui est dit. Et pour éviter de devoir évacuer trop de monde, les autorités japonaises ont augmenté le seuil légal à 20 millisieverts. Donc c'est vrai que nous, en étant observateurs, on peut se poser des questions. Robert Guillaume.
Alors là, c'est une affaire qui est assez compliquée et qui échappe à beaucoup de gens. En fait, le 1 millisievert par an, c'est-à-dire la dose qu'il est conseillé de ne pas avoir en plus de la radioactivité, je dirais, normale, c'est une limite qui est pour un fonctionnement, je dirais, normal de toutes les installations nucléaires. En cas d'accident, en fait, la législation est un peu plus compliquée et on peut tolérer des doses, par exemple, de rester ou d'avoir une exposition, soit une exposition directe, soit une exposition après ingestion, qui soit de 20 millisieverts par an. Ceci, ça fait partie des plans de traitement post-accidentel. Donc il ne faut pas voir cette limite de 1 millisievert par an comme une limite qui s'applique en cas d'accident. Ben, c'est une limite qui est une limite de santé publique, qui a été choisie comme ça par la CIPR et tout le monde est à peu près d'accord pour la respecter, mais elle ne s'applique pas forcément, je crois, en cas d'accident.
Mais alors pourquoi les Japonais ont décidé de remonter cette limite à 20 millisieverts ?
Parce qu'ils ont considéré que, justement, tant qu'on est en dessous de 100 millisieverts par an, eh bien on est dans une zone où il n'y a pas d'incidence sanitaire vraiment importante.
Ce n'est pas pour éviter de déplacer des populations plus nombreuses que si elles étaient sur un périmètre consacré aux 20 millisieverts.
Je ne sais pas si c'est délibéré, mais je pense que si en France, enfin la législation française aussi, tolère des limites qui sont supérieures aux millisieverts en cas d'incident radiologique.
Gilbert Ruel.
Je dirais que si dans leur esprit c'était un peu pour limiter le déplacement de population, je crois qu'ils ont eu raison, puisque dans Tchernobyl, il y a eu beaucoup plus de morts par le stress imposé à la population évacuée et maltraitée que de morts par l'accident lui-même. Donc c'est un choix sur les effets de mortalité sur la population.
Si on reste un peu sur cette question-là, effectivement, il y a un périmètre comme ça qu'on appelle la zone rouge, qui fait un périmètre de 20 km. Là, de la même manière, des critiques ont été émises pour dire que ce n'est pas 20 km, mais moins 30, voire 35 km. Là aussi, j'imagine que c'est la prise en compte de ces fameux millisieverts qui est en cause.
Je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est la contamination locale. Alors là, c'est un problème aussi qui est compliqué, parce que, évidemment, dès que l'accident a lieu, on ne peut pas avoir une caractérisation de la contamination immédiate. Donc, on sait qu'il y a des modèles de relâchement de la radioactivité qui prévoient que telle zone sera plus ou moins contaminée. Mais malheureusement, la contamination, elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'elle se fait par région, par tâche. Et il y a des tâches qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. En radioactivité, bon, disons, en becquerel par mètre carré. Et la gestion est assez compliquée donc, pour la population, parce qu'il y a des zones où ils peuvent revenir sans risque, et puis d'autres zones où vraiment il faut parvenir. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de vraiment uniforme. Donc ça se gère sur le terrain, et bon, tant qu'on n'est pas sur le terrain, c'est difficile de savoir comment les choses se passent.
Justement, je vous posais la question il y a peu de temps sur les risques potentiels pour la population. A été découvert il y a très peu de temps du plutonium et du strontium dans les sols, dangereux pour la santé, et qui donc émanerait de cet accident de Fukushima, en quantité faible, mais qui pourrait provoquer des cancers et des pathologies pulmonaires, et qui resterait dans les sols entre 28 ans, c'est très précis pour le strontium, à plusieurs milliers d'années pour le plutonium. Gilbert Ruel.
Bon, j'ai tendance à contester ce fait, parce que le plutonium qui a été trouvé est en quantité si réduite qu'on s'est posé la question si ce n'était pas le plutonium des retombées des expérimentations nucléaires dans l'air des années 60. Et ce qu'on trouve est à des niveaux comparables. Alors, à ma connaissance, sur trois mesures qui ont été faites, il y en a deux qui ont identifié du plutonium ancien, disons militaire, des années 60. Et puis, il y en a une qui laissait un doute. Mais enfin, donc il y a quand même une très grande probabilité que la plupart du plutonium trouvé dans les sols, c'est l'ancien plutonium qui existe partout, qui vient des retombées des essais nucléaires dans l'air.
Mais apparemment, le plus inquiétant semblait être le strontium, plus que le plutonium.
Alors, bon, pour la question du plutonium, bon, d'abord, les mesures sont très longues à faire. C'est pour ça qu'on n'a pas immédiatement l'état de la contamination en éléments lourds comme le plutonium, quoi. Ce qui a pu se passer quand même, c'est que l'accident de Fukushima, il est un peu particulier dans la mesure où c'est la première fois que probablement il y a eu sur du combustible mis à nu, c'est-à-dire une fois que donc fondu, plus ou moins fondu, à très haute température, c'est-à-dire plus de peut-être 1000 degrés, on est mis de l'eau. Donc à ce moment-là, il y a des réactions qui, entre l'eau et le plutonium très chaud, l'oxyde d'uranium et le plutonium très chaud, bon, il peut y avoir émission un peu de plutonium. Mais en général, le plutonium reste très confiné dans l'uranium, dans l'oxyde d'uranium. Donc, en attendant des mesures beaucoup plus complètes pour savoir quelle est vraiment l'origine, je pense que pour le plutonium, il faut être assez prudent. Pour le strontium, bon, le strontium, ça, c'est un élément qui est très difficile aussi à mesurer, mais qui peut certainement être présent. Souvent, on a l'association, on a beaucoup de césium, un peu moins et un peu de strontium. Et le strontium et le césium ont la même période, c'est-à-dire une trentaine d'années. Donc, la contamination risque d'être, se prolonger pendant très longtemps, quoi.
Alors, prochainement, pour la population, qu'est-ce qui pourra être cultivé et ne pas être cultivé sur ces sols? Est-ce que pendant 30 ans, ces sols seront en friche totalement, ou est-ce qu'on pourra quand même cultiver certains produits? Robert Guillaumont fait,
oui,
fait une moue pensive.
Je ne sais pas trop, parce que bon, c'est vrai que le césium, une fois qu'il est dans les sols, il a tendance à s'y fixer et puis à descendre très lentement avec l'eau de pluie. Il passe très peu, je pense, dans la végétation.
Sauf les champignons.
Sauf les champignons, d'accord, donc ça c'est bien connu. Bon, le strontium, lui, a des propriétés qui font qu'il passerait plus facilement quand même dans la végétation. Mais non, faire des cultures sur des sols contaminés, ça, je pense, des cultures pour l'alimentation, je pense que ça sera surveillé. Mais faire des cultures sur des sols contaminés, avec certaines plantes, c'est aussi une façon de décontaminer, évidemment, puisqu'on fait passer la radioactivité du sol dans les plantes qui peuvent être récoltées et puis ensuite traitées.
Il y a également l'océan, en tout cas, qui jouxte la centrale. On parle aussi de contamination. J'aimerais citer Didier Champion, directeur de l'environnement à l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui dit, pour cet océan, on ne sait pas comment évolue l'iode radioactif, vous allez pouvoir nous en parler, évolue l'iode radioactif à moyen terme, il y aura un impact peut-être jusqu'à 100 km de la centrale. Gilbert Ruel.
Bon, on lit beaucoup de choses sur la contamination de l'océan. La contamination se produit d'une part soit par les retombées directes parce que les vents ont été majoritairement orientés vers l'océan, mais je crois que ce n'est pas la principale. La principale, c'est le ruissellement des eaux radioactives de la centrale. Et cette contamination peut se faire de plusieurs manières, soit dissolution dans l'eau, l'iode-131, soit fixation des radionucléides sur des particules solides dans l'eau qui tombent par gravité et vont tapisser le sol de l'océan, le fond de l'océan. Ce que j'ai lu, c'est que Des évaluations ont été faites qui ne sont pas très inquiétantes parce que, d'une part, à cause de cette iode 131 dont la durée de vie est quand même très courte, il y a une disparition assez rapide de sa radioactivité.
Très court, c'est combien de temps ?
Eh bien, elle diminue tous les 8 jours. Tous les 8 jours, elle s'est divisée par 2. Donc, en 10 semaines, on tombe au millième de la valeur initiale. Et si vous continuez, vous arrivez à epsilon. Mais évidemment, on part d'une valeur très élevée initialement. Donc, il faut en tenir compte. Le césium, lui, par contre, a une durée de vie d'une trentaine d'années. Alors, les courants marins et la grande profondeur de l'océan très vite près des côtes ont un rôle positif parce que ça entraîne une dilution quand même assez considérable. Alors, moi, j'ai lu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais qu'une simulation avait été faite disant que dans la zone autour de Fukushima, je ne sais plus à quelle distance, mais à moins de 100 km, si un homme ne mangeait que du poisson et des algues, puisque les Japonais mangent beaucoup d'algues, pendant un an, il n'acquérerait une contamination que de 0,6 millisievert en plus des 2,5 à 3 qu'il reçoit normalement. Et donc, c'est pas si dangereux que ça, voilà.
Pas d'inquiétude, alors ?
Oh, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, non, pas d'inquiétude. Et ce qu'il peut y avoir, quand même, c'est que certains poissons ou certains crustacés reconcentrent un petit peu de radioactivité. Ça, c'est connu. Bon, je pense que les autorités sanitaires doivent le contrôler, je suppose.
Vous consommeriez les poissons qui sont pêchés à côté de Fukushima ?
Moi, je consommerais oui, personnellement, je le consommerais parce que bon, j'ai toujours vécu dans la radioactivité, donc j'ai pas très peur de la radioactivité. Mais je conçois très bien que les gens qui n'ont jamais approché, je dirais professionnellement, la matière radioactive aient des inquiétudes pour le manger. Ça, c'est certain. Mais bon, je pense que moi, personnellement, j'en mangerai.
Alors, dernière question, on arrive vraiment au terme de notre émission, donc je vous demanderai de répondre très rapidement. J'imagine qu'il y aura un après et un avant Fukushima dans le développement des centrales, ou en tout cas dans la gestion des risques. J'imagine qu'il y aura un avant et un après.
Oui, enfin, basé sur la réaction émotionnelle. Dès qu'on passe de l'émotionnel au rationnel, ben, on prendra en compte toutes les leçons de Fukushima pour améliorer le comportement de tous les réacteurs actuels, pour améliorer leur sûreté. Finalement, c'est toujours ce problème du refroidissement après arrêt. C'est le même problème partout, aussi bien TMI, Three Mile Island, aussi bien que Tchernobyl et Fukushima. Simplement, l'énorme différence à Tchernobyl, c'était un réacteur qui n'avait pas d'enceinte de confinement, parce que c'était un réacteur à double fin civile et militaire. Et il avait un modérateur graphite et les tonnes, les centaines de tonnes de graphite ont brûlé pendant 10 jours, envoyant, après l'explosion du cœur, envoyant tous les produits, non seulement les produits volatiles radioactifs, mais des produits lourds comme le plutonium, le strontium, tous les produits de fission sont partis à plusieurs milliers de mètres à la merci des vents qui les ont transportés partout. Ce qui n'a pas du tout été le cas de Fukushima, où ces produits ont été soit par les bouffées très locales, il n'y en a pas eu un grand nombre de mélanges de vapeurs et de produits radioactifs, soit par ruissellement. C'est quand même très limité, c'est une petite zone. C'est une zone
les États-Unis ont eu peur quand même, ont eu peur de ce nuage radioactif.
Oui, enfin, bah, même la France. Ceux qui veulent se faire peur se sont fait peur, oui, d'accord.
Robert Guillaumont, pour terminer.
Bien, alors, bon, pour terminer quand même, je crois que je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est que l'énergie nucléaire, donc par rapport aux autres énergies, elle a une particularité, c'est que le combustible qu'on utilise, le combustible nucléaire, il devient de plus en plus radioactif au fur et à mesure qu'il brûle. Donc, potentiellement, il devient de plus en plus dangereux, ce qui n'existe pas évidemment pour les autres combustibles. Bon, on a bien vu dans tous les accidents que ces relâchements donc, de matières radioactives conduisent à des conséquences quand même importantes. Alors, je dirais de Fukushima, c'est que ça a apporté quelques confirmations et quelques enseignements complémentaires. Des confirmations, eh bien, c'est que les causes, l'enchaînement des phénomènes, tant pour les réacteurs que pour les rejets et la contamination, se sont déroulés conformément à ce que l'on sait du comportement du combustible en situation accidentelle, de toute façon. Et les enseignements qui vont au-delà de ces confirmations, c'est que bon, la fusion des cœurs de réacteurs, bon, c'est quelque chose maintenant qu'il faut prendre en compte, ce qui a déjà d'ailleurs été fait dans les réacteurs de troisième génération, où Là, il y a des dispositifs qui permettent de traiter le corium une fois que le cœur a fondu. Alors, quelle nouveauté ça a apporté ? Eh bien, je pense que ça a soulevé le problème de l'hydrogène, qui est un problème donc de chimie, qui est d'ailleurs actuellement traité dans les réacteurs, je dirais, occidentaux, les REP, où il y a des recombineurs d'hydrogène. Ça a amené comme autre nouveauté le problème des piscines d'entreposage du réacteur usé, qui sont dans des endroits qui ne sont pas confinés. De toute façon, jusqu'à maintenant, on en parlait très peu. Je pense qu'après Fukushima, on en parlera. Ça a amené aussi le problème de la durée de l'accident, qui s'est prolongé sur plusieurs mois, générant beaucoup d'effluents radioactifs ou de déchets radioactifs qu'il faut traiter. Donc, on a parlé des 100 000 tonnes actuellement d'eau contaminée. C'est pas une petite affaire, donc il faut le voir. Et je pense que pour les scientifiques, le dernier enseignement, c'est qu'il faut revoir tout ce que l'on sait sur la situation du combustible en situation accidentelle. On connaît beaucoup de choses, mais je suis pas sûr que tout était bien étudié. Donc, poursuivre ces recherches. Et là, je voudrais dire également que quand tout va bien, les recherches sont au ralenti. Chaque fois qu'il y a un accident, elles repartent un petit peu. Et à mon avis, il faudrait qu'elles puissent se poursuivre sereinement pour toujours améliorer la sûreté des installations nucléaires avec des moyens qui devraient être à l'égal de ce que l'on met dans d'autres domaines du nucléaire.
Eh bien, merci pour cette conclusion très détaillée. Merci à tous les deux d'être venus nous voir au studio de Canal Academy. Et je rappelle qu'il existe d'autres émissions consacrées au nucléaire en compagnie de vous, Gilbert Ruel et Guy Laval, sur la durée de vie et le fonctionnement des centrales nucléaires en France. Et puis prochainement, une émission diffusée également sur le site de Canal Academy consacrée au mix énergétique en France à l'horizon 2050 en compagnie d'Edouard Brézin, de Guy Laval et de Sébastien Candel. Merci à tous les deux et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci. Thank you.